Date voilée sur les listes du NPA dans le Vaucluse. Notre deuxième invité sera Abdellah Kachouri qui mène la liste socialiste en Seine-Saint-Denis. Rendez-vous avec Olivier Besancenot dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter.
La différence.
15h04, c'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet.
Petit message comme ça, à titre de non-information, tu sais, comme quand tu dis des fois qu'il faut surtout pas consulter le site non-officiel là-bas.org pour ne surtout pas voir les comptes rendus de tes non moins merveilleuses émissions. Eh ben moi, Daniel, je vais appeler à ta gentillesse, à ta mansuétude, à ta bonté naturelle pour que tu te moques surtout pas de Bernard-Henri Lévy qui s'est encore pris une grosse boîte aujourd'hui avec un petit problème de boîte, justement, de conserve remplie de toxines botulique. Donc Daniel, sois gentil, ne te fous surtout pas de BHL, s'il te plaît, ne rediffuse pas le procès de BHL, ni l'émission que vous aviez fait à son sujet. Non, Daniel, ça serait vraiment pas sympa. Je sais que vous êtes des gens sympas à là-bas, et j'en pense pas moins de tous les AMG, donc surtout qu'on se moque pas de l'ami BHL. Salut, c'était François.
Oui, bonjour Daniel. Oh, écoute, moi j'ai appris hier cette histoire de hold-up avec une burqa par-dessus. Franchement, moi ça me fait marrer. Comme personne n'y a pensé plus tôt. Je trouve que c'est un coup digne des pieds nickelés, des Dalton réunis, quoi. La burqa, il faut pas y toucher. Dans mon enfance, il y avait des mecs qui faisaient des coups tordus habillés en curé et en moine. Et ben maintenant, l'habit du 21e siècle pour faire un coup tordu, ben, c'est la burqa. C'est super facile. Et ceci dit, je ne cautionne pas du tout les hold-up et tout ce qui s'ensuit. C'est juste sur le plan de l'idée, quoi.
Quel est le problème? Un représentant du peuple portant un signe religieux ostensible? Ça me fait penser à quelque chose. Mais ouais, c'était juste après la libération. Un député, je cherche sur le web, je trouve une photo. Et oui, il porte soutane, juste en sortant de l'Assemblée. Plus tard, il est resté personnalité préférée des Français un paquet d'années même. Pourtant, le mélange religieux et politique me gêne un peu. Ou alors, rendons l'ostentation obligatoire. C'est quoi, au fait, les signes ostentatoires de la scientologie?
Salut, j'appelle pour donner une précision, au cas où les gens ne seraient pas au courant. La jeune femme voilée qui se présente aux élections sur la liste MPA s'appelle Ilham Moussaïd. Moi, j'ai dit ça parce que sinon on pourrait croire qu'elle s'appelle jeune femme voilée de 22 ans. Et oui, et elle, donc en fait, elle s'appelle pas jeune femme voilée de 22 ans, elle s'appelle Ilham Moussaïd. Et sinon, voilà, ça me rassure de voir qu'il y a tant de féministes dans ce pays. Franchement, moi, j'étais un peu inquiète, je croyais que les droits des femmes étaient vraiment en régression et tout et tout. Et ben non, pas du tout, tout le monde se lève pour défendre le droit des femmes et honnêtement, presque me viendrait une larme, hein, vraiment. Allez, je vous embrasse.
Oui, bonjour Daniel. Écoute, je pousse un coup de gueule. Il est possible d'arrêter cet acharnement vers cette jeune femme, qui d'ailleurs n'est pas voilée. Elle attache ses cheveux avec un foulard. Arrêtons. Que dit-on de tous ces artistes chanteurs là qui arborent une croix autour du cou? Pas de poids de mesure. Et la kippa, qui s'en offusque? Alors là, si quelqu'un émet un avis, oh là là, il est antisémite. Arrêtons. Alors, hein, j'en ai marre. Et cette burqa? Ces jeunes filles, elles sont égoïstes, elles ne réfléchissent pas évidemment à leurs sœurs qui sont voilées par force. Mais elles, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? Du jour au lendemain, elles peuvent s'en défaire de cet accoutrement, sans être victimes de coups et plus de la mort. Elles sont sans réflexion. Mais pitié que tous ces offusqués bien placés, arrêtez, pensez plutôt à tous ces jeunes sans boulot. Oh là là!
Oui, salut Daniel, salut les AMG. Donc je voudrais un peu intervenir. Je crois qu'on est vraiment dans le bal des hypocrites. De la droite au PS, en passant par les partis de gauche, je crois qu'on est vraiment dans une grande hypocrisie. Parce qu'il faut rappeler que quand M. Sarkozy se jette dans les bras du pape, ou alors se signe en public, ou alors quand Mme Boutin brandit la Bible à l'Assemblée nationale, là, il n'y a pas grand monde qui soit offusqué. Je crois que cette situation est vraiment nauséabonde. Je crois que c'est vraiment dommage de prendre ce problème et de jeter cette personne en pâture comme ça et de voir que tout le monde, les plus grands démocrates de ce pays, ont que ça à foutre. Je crois que le problème d'Ilham, moi je retiendrai, c'est ce qu'elle a dit en dernier, c'est vraiment pour ce qu'elle se bat. Donc l'anticapitalisme, l'antiracisme, l'internationalisme et le féminisme. Salut, c'était Olivier.
Cher Daniel, je suis un auditeur de longue date qui t'écoutait déjà sur Inter quand tu cherchais ton bourlingueur de papa pianiste. Je te parle aujourd'hui pour la première fois. Il y a une cohérence qui m'échappe dans ta prise de position de lundi concernant le NPA, sa candidate voilée, Ilham Moussaoui, et plus généralement dans ta persistance à manier l'islamophobie en employant les mêmes ressorts, les mêmes raccourcis et les mêmes amalgames confusionnels que Finkielkraut et ses affidés quand il t'envoie au tribunal en le qualifiant d'affreux antisémites et de judéophobes patentés. Je ne comprends pas comment on peut voir dans cette initiative du NPA autre chose qu'une grosse manœuvre électoraliste. En caressant le voile dans le sens du fil, en allant flatter les sensibilités d'un électorat jusqu'ici peu mobilisé dont il convoite les suffrages, Besancenot fait du Sarkozy dans la méthode. Après le préfet musulman, la candidate voilée, le casting était parfait. Je vis dans un pays d'Afrique noire à grande majorité musulmane, où un projet de modernisation du code des personnes et de la famille, accordant aux femmes un statut social nouveau et des droits élémentaires qu'elles n'ont pas encore, a été renvoyé en deuxième lecture, suite à la mobilisation très efficace de dizaines de milliers de personnes rassemblées dans un stade de football, à l'initiative des tenants de la doctrine religieuse. Peut-on parler de ces gens comme de progressistophobes ? Daniel, toi qui vantes les luttes sociales avec tant d'ardeur, est-ce que tu avances comme une gomme pour oublier ainsi au prix de quelle lutte et de quelle résistance nos parents et nos grands-parents se sont libérés de l'oppression des curés, ont obtenu le droit de vote pour les femmes ou le droit à l'avortement ? Je crois que tu vas un peu vite en besogne en renvoyant à l'islamophobie et au racisme primaire toutes celles et tous ceux qui sont troublés ou choqués par cette affaire. Il y a parmi eux des musulmans qui ne se reconnaissent pas dans cette lecture de l'islam et qui mesurent mieux que toi le poids de dogmes religieux qui pèsent sur ces fichus 50 cm carrés de tissu. Il y a aussi beaucoup d'athées qui rejettent le fait religieux en général et pas l'islam en particulier. Ce que je sais, c'est que tu es meilleur quand tu nous emmènes rêver dans les bars de Lisbonne ou les ruelles du Sanaa, plutôt que de défendre un Besancenot qui se sent pousser des ailes et qui n'est pas à une contradiction près. Ciao, c'était Arnaud, auditeur depuis Bamako, je suis là-bas au Mali.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis et aux auditeurs de France Inter. Je voudrais répondre au monsieur qui dit qu'il faut éradiquer toutes les religions. Moi je trouve que c'est une belle leçon de tolérance pour quelqu'un qui se dit de gauche. Je porte le voile et je ne pense agresser personne avec mes 50 cm carrés de tissu en plus. Je suis musulmane, ça se voit, et alors je n'impose à personne ma religion qui ne regarde que moi. Ça devient lourd d'entendre les personnes chuchoter derrière nous dans la rue ou les magasins « Ben Laden ceci, Ben Laden cela », sans se douter une seconde qu'on a des oreilles sous notre voile. Au lieu de chuchoter derrière nous, plaignez-vous des différences de salaire homme-femme en France aujourd'hui, de l'inégalité d'accès aux postes à haute responsabilité et aux responsabilités politiques. Laissez-nous tranquilles et relativiser. Nous sommes libres et nous n'agressons personne.
Oui, bonjour. Je voulais dire merci à Daniel Mermet et à Trévalu à Howardin, parce que grâce à lui, en tant qu'étudiant en sciences politiques, j'ai des super notes à tous mes partiels d'histoire des États-Unis, grâce à son bouquin qui me permet de dire des choses que les autres ne disent pas. Voilà. Merci Daniel et merci Howard. C'était Thomas à Lyon.
Dites, ça vous dirait pas de lancer une souscription pour faire un DVD d'Howardin ? Ce serait une bonne idée. Hein. Je l'écouterai pendant des heures. Ciao, ciao.
Eh bien, vous allez être comblés aujourd'hui parce qu'on continue effectivement avec Howard Zinn, ces entretiens que nous avons eus avec l'historien américain en avril dernier, l'historien américain qui nous a quittés le 27 janvier dernier à l'âge de 87 ans au terme d'une vie superbe, qui nous a raconté déjà depuis lundi comment immigrer d'une famille juive d'Autriche, modeste et pauvre, dans New York, avec son père qui fait tout un tas de petits boulots et lui qui fait tout un tas de petits boulots, et puis qui monte, mais socialement, mais pas parti de rien, il n'arrive pas à grand-chose. Et puis son initiation politique, sa prise de conscience politique petit à petit là aussi, et puis comment il découvre le fascisme et comment il entend se battre contre le fascisme, et voilà pourquoi il s'engagera au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans l'US Air Force, et comment à bord des bombardiers de l'US Air Force il en viendra à bombarder des cibles à travers l'Europe, mais finalement en 1945 il sera amené à bombarder une ville française, Royan. Et là, il va découvrir que c'était absolument pas nécessaire de bombarder cette ville. Et il va découvrir aussi que pour la première fois, on a utilisé le napalm. Alors, c'est une très grande prise de conscience pour Zine. Ensuite, il y aura l'épisode Nagasaki-Hiroshima. Et là, sa détermination, sa prise de conscience sera encore plus ferme. Et va déterminer le reste de ses convictions, de son parcours. Il nous a raconté comment, au lendemain de cette guerre, une disposition du gouvernement permettait aux vétérans, aux anciens de cette guerre, de rentrer à l'université, de faire des études. Et lui, il a fait des études, et c'est ainsi qu'il est devenu historien, puis professeur dans le sud des États-Unis, qu'il a pris part à toutes les luttes pour les droits civiques, à commencer par les luttes contre la ségrégation raciale qui sévissait. Et puis ensuite, il nous a raconté comment il a lutté, il était un des premiers dans les luttes et les mouvements contre la guerre du Vietnam. Et on continue donc aujourd'hui avec Howard Zinn, et à travers tout un tas de sujets qui nous préoccupent, qui nous intéressent, sur évidemment l'Amérique d'aujourd'hui, celle d'Obama. Souvenez-vous, il y a à peine un an, c'est ce qu'on appelait l'Obamania, cette approbation générale, c'est un moment de grande béatitude planétaire devant cette élection. Et bien, il y avait quelques dissonances un peu sceptiques, dont celle de Howard Zinn à l'époque, que nous allons retrouver. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Le 28 février, le peuple togolais tentera de se libérer de 48 ans de dictature en votant pour un nouveau président. Kofi Annan, premier maire noir de France, a toutes les chances, en réunissant les partis d'opposition, d'être élu président du Togo. Bien sûr, le pouvoir en place met tout en œuvre pour écarter ce candidat trop gênant. Merci à tous les auditeurs de France Inter de soutenir le Togo, le peuple togolais, dans son désir de démocratie. Nous n'avons pas le droit de rester indéfiniment insensible à ce qui se passe en Afrique. Parlons-en autour de nous.
Salut Daniel, ça devient absolument insupportable. Dès qu'un de nos ministres ou notre président de la République s'exprime, c'est pour dire des mensonges. Ces gens-là mentent à longueur de journée. Le dernier en date, c'est M. Éric Woerth, notre valeureux ministre du Budget, qui, un peu épinglé par les résultats de la Cour des comptes, crie haut et fort que les résultats, le déficit budgétaire de la France est dû uniquement à la crise. Ce que ne valide pas du tout la Cour des comptes, qui dit que c'est une gestion calamiteuse des finances de la France. Voilà, la crise a bon dos dans cette affaire. Et M. Woerth dit non, c'est faux, c'est la crise. Alors M. Woerth, si vous entendez ce message, j'aimerais vous poser cette question. Les 3 milliards d'euros que va perdre la France cette année à cause de la baisse de la TVA à la restauration, est-ce que c'est dû à la crise? Les 14 milliards d'euros dus à la loi TEPA, qui est là uniquement pour faire plaisir à l'électorat de M. Sarkozy, sont dus à la crise. Et la liste est longue comme ça. Nous en sommes à peu près à 140 milliards d'euros de déficit cette année. Ça sera à peu près équivalent l'année prochaine, c'est du jamais vu. On regarde la Grèce, ce qui se passe en Grèce, mais en France, c'est pour bientôt. Donc c'est scandaleux de dire que c'est dû à la crise, c'est pas vrai. Vous êtes en train de faire du clientélisme à grande échelle, uniquement pour faire réélire votre petit président, et c'est absolument honteux et scandaleux. Je ne comprends pas que les journalistes sont complètement pieds et poings liés avec le pouvoir, ne dénoncent pas ça plus haut et plus fort. Salut.
Salut Daniel. Ce soir, pour mon plus grand malheur, je gardais ma fille. J'adore ma fille, là n'est pas le problème. Mais ma fille a 5 mois et donc elle a grand besoin de dormir nuitamment. Après l'avoir couchée, c'est là mon grand malheur, j'ai allumé la télévision. Et là, sur Arte, grand moment de télévision. Grand moment d'auto-justification sous prétexte de parler de la crise des médias et de la suspicion du public à l'encontre de l'information prodiguée. Premier sujet sur les thèses du complot sur le 11 septembre, en démontant les partisans de cette thèse et ceux qui revendiquent donner une information alternative. Mais sans aborder un sujet aussi polémique qui concerne finalement les lointaines Amériques, le journaliste aurait pu s'interroger tout simplement pourquoi le film « Pas vu, pas pris » de Pierre Karl n'a jamais pu être distribué à la télévision. Deuxième partie de soirée, nouvelle émission, où l'on nous présente des journalistes confirmés, prétendument en colère, notamment le directeur de France Inter, qui vituperait contre la démagogie ambiante. Lui aussi aurait peut-être pu s'interroger si la publication de ces fameuses caricatures de Mahomet n'a pas été un acte de haute démagogie, comme le rappelle Chomsky dans ton film. Allez, hasta siempre, Daniel. Ciao.
J'écoute les journalistes, le reportage sur Arte, et ben voilà, des grands journalistes qui font l'opinion, qui nous disent qu'il n'y a pas de théorie du complot. Ben je voyais, je pensais qu'il allait y avoir Daniel Mermet, quelques journalistes de là-bas si j'y suis, et ben non. Mais il y a quand même votre chef, je sais pas comment il s'appelle, là, le mec de France Inter, là, qui a été nommé par Sarkozy, et qui dit que c'est super le journalisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Eh ben, bravo, continuez, bonne chance là-bas.
Salut Daniel, salut les AMG. Le prochain repère du 14e se tiendra le dimanche 14 février à 20h au Magique, 42 rue de Gergovie, métro Plaisance. Pas de thème imposé, mais chacun est libre de proposer un sujet en fonction de l'actualité. Merci. Traffic lights weren't working, snarling jam. In the area, more than 3 million people lost electricity after a fire at a transmission center. ABC's Jeffrey Long.
My students kept asking me if I know of a book that offered a different view, a radical view, a critical view of American history. My name is Howard Zinn, and I wrote A People's History of the United States.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Ventil et Howard Zinn, des huîtres au Tabasco.
Let's not overdo it. Flight number 2, arriving
from New York. Howard Zinn, on s'est vu en 2003, on est en 2009. En 6 ans, il s'est passé au moins 2 événements majeurs qui vous intéressent comme historien et comme américain. C'est la crise financière énorme qui est en train de s'abattre sur les États-Unis, sur le monde, un, et deux, l'élection de Barack Obama. Alors, je voudrais que vous nous parliez d'abord de la crise qui a éclaté l'année dernière ici et qui est en train de gagner le monde. Comment vous voyez cette crise? Comment vous l'analysez? Est-ce que vous la comparez à la crise de 1929?
With your views as a historian.
I'm not an economist. Which means that I can speak intelligently about the economy.
D'abord, faut dire que je ne suis pas un économiste, ce qui veut dire que je peux parler intelligemment de l'économie.
Because as you know, the economists don't know what's going on. I mean, hardly anybody knows what's going on. But I mean, to me, there are several basic principles involved, which I think enable me to make some judgments about policy.
Les économistes ne savent, comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui, même comme très peu de gens. Mais moi, en tant qu'historien, je peux quand même émettre quelques réflexions sur ce qui se passe et sur ce qu'on peut voir à l'œuvre aujourd'hui. I can't believe you're doing this. The traffic lights weren't working, snarling traffic in and around the Miami area. More than 3 million people lost electricity after a fire at a transmission center. ABC's Jeffrey Kaufman reports from Miami. There's a big power outage.
Oui, mais d'où viennent ces réflexions? D'où viennent ces réflexions de cet homme avec qui nous parlons dans son bureau de Boston University? C'est le mois d'avril 2009. Howard Zinn est en face de nous, 87 ans, en pleine forme, souriant, étincelant, on pourrait dire, brillant, drôle, amical. Mais d'où viennent ces réflexions? Qu'est-ce qui fait que cet homme va dire ce qu'il dit? Eh bien, c'est des questions qu'il adore poser à ses interlocuteurs. Comment êtes-vous arrivé à penser ce que vous pensez? Il a passé la deuxième partie de sa vie à réfléchir là-dessus et à écrire là-dessus, surtout sur son parcours à lui. Et ça a donné ce livre, L'impossible neutralité, où il retrace son parcours que j'évoquais en commençant. C'est de là que viennent ses réflexions. C'est de cette expérience, de ces expériences successives comme un jeune Américain engagé dans la vie, non pas quelqu'un qui serait loin, distancié dans le cocon d'une université, bien confortablement installé entre les salles de cours, les pelouses de l'université et tout ce côté douillet. Non, Howard Zinn a frotté sa vie et sa carrure à bien des expériences, à bien des boulots, des petits boulots, des sales boulots, et à réfléchir avec les uns et les autres et à vivre jusque dans ce fameux avion, ce fameux bombardier qui a été pour lui un grand moment, une grande charnière de sa vie. Et voilà d'où ça vient, tout ça. Ça vient aussi de son travail ensuite d'historien. Dans le bureau dans lequel nous sommes, il y a des dossiers, des tiroirs. On sent que ça a été un travail simple de recherche, de choses soulignées, recopiées, de fiches. Il a beaucoup travaillé d'ailleurs avec son épouse. Et voilà, c'est un travail simple, un travail toujours dont la rue n'est jamais loin, dont la ville n'est jamais loin, dont les hommes ne sont jamais loin, dont les expériences ne sont jamais loin. Si bien que, il a touché tout le monde. Et le monde entier, oui, puisque son œuvre principale, l'histoire populaire des États-Unis, a été traduite dans bien des langues à travers le monde, tardivement en France, pour des raisons que Thierry Dissépolo, l'éditeur de ce livre, l'édition Agone, aime à expliquer. Et voilà ce qui fait cette pourquoi son ouvrage principal et son travail et ses idées vont loin, c'est parce qu'elles viennent de loin, mais il a réussi, et c'est assez rare pour qu'on passe tout ce temps avec lui, il a réussi à être à la fois savant et populaire. Ce qu'il dit, sans doute que d'autres chercheurs le savent, ces recherches-là, il ne les a pas trouvées du néant, il n'était pas sorti du néant. Mais il a réussi à faire passer ça, à faire partager ce point de vue et ces histoires, et cette histoire des États-Unis dans laquelle il y a sa propre histoire, la faire partager pour tous et finalement à changer le regard des États-Unis et des États-Uniens sur eux-mêmes et par là même notre propre regard sur les États-Unis et sur nous. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Howard Zinn, des huîtres au Tabasco.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know, you better run, run, run. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
See, and it starts with an understanding of what happened in 1929 in that depression. And one thing is fairly clear, and that depression did not start in 1929. It started in the 1920s. What happened in the 1920s in the United States was that the gap between the rich and poor got very wide.
Mais en tant qu'historien, là on peut faire des comparaisons et des parallèles avec 1929. C'est que la crise de 1929 n'est pas apparue d'un jour en 1929. Elle est apparue au lieu d'un processus tout au long des années 20. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours des années 20? C'est que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est élargi davantage.
So yes, there was a very similar situation that here in the Bush years, the gap between the rich and poor, which has always existed, but it got worse in the 1920s, and it got worse during the Bush years.
Et ce fossé entre les riches et les pauvres qui a toujours existé aux États-Unis s'est aggravé dans les années 20, comme il s'est aggravé sous l'administration Bush aux États-Unis aussi.
Now, there are two ways you can deal with this if you are in the White House and you are a policymaker.
Il y a deux manières de gérer ça, si on est à la Maison Blanche et si on est un homme politique.
You can decide that you will use the wealth of the country and give it to save the financial institutions and the corporations in the hope that then they will carry on policies that will create more jobs and more purchasing power below. That's one approach.
La première approche consiste à aider financièrement les grandes institutions, les grandes entreprises, les grandes corporations, en espérant que le fait de les aider pourra avoir des répercussions sur ceux qui sont en bas, en apportant de l'argent, en faisant travailler les gens.
That's called the trickle-down theory, that you pour money in at the top and it will come down to the bottom, you see.
C'est de la théorie que de l'argent qui dégringole injecté en haut arrivera finalement jusqu'à ceux d'en bas.
Quand les gros grossissent, les pauvres ont des miettes.
Yes. When Roosevelt came into office, at first that was his policy. At first he acted to save the banks.
Et ça, c'est le choix qui a été fait par Roosevelt. C'était la première politique, c'est-à-dire d'aider les institutions financières et les banques.
But then he realized they had better do something bolder. And that was the second policy. The second possibility is you bypass the corporations, you bypass the banks, and you give help directly to the people who need it.
Simplement, il s'est aperçu au bout d'un moment qu'il fallait les court-circuiter et aller directement aider les plus pauvres.
In other words, instead of giving money to the banks and saying to the banks, go easy on the people who own houses, try to give them a better deal, instead of having the banks as intermediaries, legislation was passed saying you cannot evict people from their homes.
Plutôt que d'amener l'argent aux banques en leur disant, écoutez, allez-y mollo sur les plus pauvres, évitez de les expulser, etc. Non, c'est d'aller directement à la source et de prononcer une loi qui interdise, par exemple, les expulsions de gens qui sont en cessation de paiement. Voilà le deuxième choix qui a été fait de cette deuxième orientation politique par Roosevelt.
And instead of giving tax breaks to corporations, hoping that the corporations will now hire more people and create jobs, the government itself will create jobs. The government will hire people.
Et plutôt que de faire des baisses d'impôts pour les entreprises en espérant que les entreprises vont donner plus d'argent, embaucher plus de gens, l'État crée lui-même des sociétés qui emploient les gens.
Under Roosevelt, the government created 6 million jobs.
6 millions d'emplois ont été créés comme ça par l'administration Roosevelt.
Obama faces the same situation. And that is people don't have enough money to pay their mortgages. People are being unemployed. And Obama is following a policy which is not as bold as the Roosevelt policy, which goes a little in both directions. On the one hand, he gives $700 billion to the banks. And on the other hand, he creates a job program which will give jobs to some people, but not enough to really change the unemployment situation.
Et Barack Obama aujourd'hui fait face à peu près à une situation similaire, sauf que lui, plutôt que de choisir l'une ou l'autre position, il choisit un peu un entre-deux. Une situation qui mélange les deux positions, par exemple en donnant 700 milliards de dollars aux banques pour les soutenir, leur maintenir la tête hors de l'eau, et en faisant des programmes pour redonner de l'emploi aux gens, mais pas assez, pas pour tout le monde, pas en s'engageant d'une manière aussi radicale que l'a fait Roosevelt.
Because he can't escape this ideological obstacle, something that the Republicans and the Democrats have adopted after Roosevelt. And that is, they say, no big government.
Et c'est tout simplement parce que Barack Obama n'arrive pas à dépasser cette espèce d'obstacle idéologique qui est le sien. L'héritage des démocrates comme des républicains après Roosevelt, c'est pas d'interventionnisme de l'État, pas d'État fort.
And if you are afraid of being accused of creating big government, then like Obama, you will not adopt a government health plan. Well, as in European countries where everybody has free health care, and it comes out of the taxes, right? And so Obama doesn't want to do that because he doesn't want to be accused of being big government, you see.
Et Obama, comme il a peur d'être accusé d'être pour un État fort, d'être trop interventionniste, c'est pour ça que, par exemple, il n'ira pas jusqu'à faire un système de santé où les frais sont remboursés à partir des impôts des contribuables. C'est aller trop loin pour lui.
Election fall. Special early coverage is only on Fox. Get reaction, analysis, and complete race results.
11 p.m. on the East Coast. We're back on the air, and we have news. An African American has broken the barrier as old as the Republic.
Barack Obama is our candidate, and he will be our president.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
On se souvient effectivement de la campagne de Barack Obama à Houston, et c'est vrai qu'il y avait un enthousiasme qu'il était bien difficile de ne pas partager. Il a été élu, et là, l'enchantement, l'Obamania a gagné toute la planète. On est enclin à ces enivrements collectifs qui a gagné les États-Unis, notamment évidemment le monde noir des États-Unis. Et les Chicanos aussi ont été enthousiasmés, une grande partie de l'opinion a été enthousiasmée, mais c'était évidemment avoir bien peu de mémoire et faire semblant d'ignorer comment fonctionne l'administration américaine, l'administration de Washington, et puis quelle est la constitution américaine et quelle est la politique toujours suivie par les États-Unis. Un grand moment d'ébriété collective, un grand jour, quelques belles journées, et puis une gueule de bois. On est avec Howard Zinn, c'était en avril dernier dans son bureau de Boston University. Vous nous racontez dans l'histoire populaire des États-Unis toutes ces grèves, ces manifestations, ces mobilisations ouvrières dans les années 30. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation à bien des égards comparable? Est-ce que ceux qui partagent vos idées ont l'occasion de se réjouir en disant « c'est une crise du capitalisme », est-ce que le capitalisme ne va pas s'effondrer, est-ce qu'il ne faut pas pousser le capitalisme à son effondrement? Est-ce que c'est une situation qui est favorable aux idées qui sont les vôtres?
Well, potentially, yes, that is, it is, it would be an occasion to move away from capitalism if there were a great social movement in the United States. The problem is that there isn't yet a social movement in this country to push for that.
La situation est telle qu'on aurait effectivement besoin de s'éloigner du modèle capitaliste. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société américaine, il n'y a pas de mouvement social pour porter ce projet.
I think this is an educational time for many people. And many people are, I think, beginning to question the economic system. Even the capitalists are wondering, and you know, you see this in the Wall Street Journal or Newsweek, they talk about, we haven't seen such talk about capitalism. They didn't want to use the word capitalism or socialism, but now they use those words.
Je crois qu'on est dans une période où les gens apprennent, les gens sont en train de réaliser ce qui est en train d'avoir lieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans les milieux capitalistes, il y a des termes même comme capitalisme, socialisme qui réapparaissent dans le débat, alors qu'auparavant, ils n'étaient même pas mentionnés.
So it may be that there will be a pressure, more pressure on the Obama regime not to reject the capitalist system, because they won't do that. But there may be more pressure on Obama to make bolder moves, that is, to move in the direction of Roosevelt, because his moves are not yet as bold as Roosevelt's moves.
Après, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'Obama suive un peu l'exemple de Roosevelt, mais d'une manière peut-être plus courageuse, plus franchement aller de l'avant pour sortir de ce système.
Ce qui s'est passé quand même entre la première fois qu'on s'est vu et celle-ci, c'est qu'il y a, cinq ans, six ans, où vous étiez un témoin d'une époque révolue. Et aujourd'hui, vous venez de le dire, voilà que le mot capitalisme revient, ce mot qui était complètement un mot oublié. Voilà qu'on reparle de nationalisation, voilà qu'on reparle de Karl Marx, tout le monde se met à relire Karl Marx. Et il y a, vous allez devenir à la mode, Howard. Vous allez devenir un prophète, alors que vous n'étiez qu'un témoin jusque-là.
Well, let me say this about Marxism. Most Americans have no idea about Marx or Marxism, right? If you asked Americans, who is Marx? Say, it's probably some Russian. Groucho Marx.
D'ailleurs, faut que je vous dise que les Américains, ils ne connaissent pas très bien Marx. Ils ne savent pas très bien de qui il s'agit. Et quand on leur demande de Marx, qui est Marx, peut-être qu'ils diront peut-être que c'est un Russe, ou alors ils penseront à un Groucho Marx.
Ils sont riches parce que nous sommes pauvres.
We got Americans with families can't even find meals.
Ask a brother who's been downsized if he's getting any deals.
Demande à ton pote dont la boîte a été restructurée s'il a touché le pactole.
Ask a brother who's been downsized if he's getting any deals.
Question of class.
What's class got to do with this?
Ce n'est pas une question de classe. Le thème des classes sociales ne fait pas vraiment partie des discussions de tous les jours dans la vie politique américaine. À l'ombre de la bombe atomique, tout est cassé, rien ne fonctionne. Pourtant, toute cette merde, j'ai bien dû la payer. Une meilleure vie que ça là, ça doit bien exister. Ah, le bonheur américain, mais c'est pas vraiment le pied. Et j'y vois pas clair, comme tous les copains qui se font défoncer la gueule. Tu travailles si tard qu'à la fin tu t'écroules. Et tu gagnes quoi? Une, deux pièces? Pas vraiment le bon deal. Mais je travaille toute ma vie pour finir le mois. Mais je travaille toute ma vie pour leur payer le foie gras. Il faut bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Que ce soit moi ou le type en bas de la rue, un gamin de Tijuana ou une maman au Ghana, il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. La société est divisée en classes. Il y a des gens qui travaillent très très dur et qui gagnent très très peu. Et il y a des gens qui ne travaillent pas trop dur. Et quand ils travaillent, ce n'est finalement que des ennuis pour nous autres. Ce qu'ils produisent, c'est dangereux.
Ce qui fait la particularité de votre travail, de votre réflexion, c'est que vous avez un horizon radical, de changement radical de la société, du monde, et ça, vous n'avez jamais perdu de vue cet horizon depuis votre prime jeunesse. Et d'autre part, quand il y a une victoire, aussi modeste soit-elle, aussi réformatrice soit-elle, vous l'acceptez. Quand Obama est élu, un homme noir est élu, vous vous réjouissez. Roosevelt, évidemment, c'est pas votre tasse de thé, mais quand même, vous notez les améliorations qu'il peut apporter, etc. C'est-à-dire que vous avez deux horizons. Vous avez une sorte de réalisme pour le quotidien, pour ce qui peut se faire. Et puis un grand horizon qui est le soleil rouge qui se lève à l'horizon un beau matin.
That's always been a problem for people on the left. How to react to small steps that do not make any fundamental changes in the system.
Ça a toujours été un problème pour les gens de gauche, de comment réagir à des petites victoires, des petits pas qui ne remettent pas en cause la totalité du système.
Because we can't reject these reforms. We can't say, although some people would say that, the few, you know, real people on maybe even on the very extreme left say, let things get worse, don't support reforms. If you don't support these reforms, you will alienate yourself from those people who benefit from the reforms.
Et c'est vrai que c'est un dilemme, parce qu'on ne peut pas refuser ces victoires, à moins d'être un extrémiste qui, d'extrême-gauche qui dira bah, « plus ça s'empire, mieux c'est pour nous ». Mais on ne peut pas refuser ces petites victoires, parce que c'est s'aliéner et se mettre à dos ceux qui en bénéficient.
Et ceux qui ont lutté pour les obtenir, et ceux qui ont lutté pour les obtenir.
I'll give you an example of this dilemma, this problem.
Je vais vous donner un exemple de ce dilemme.
In the South, you know, I was involved in the movement in the South for those 7 years that I lived in the South. And it was a very intense and dramatic struggle. What were they struggling for? The right to vote and the elimination of segregation signs, right, all over the South.
Quand je vois, par exemple, les 7 années que j'ai vécues dans le Sud et que je me suis battu pour ces droits, quels étaient les objectifs de ceux qui manifestaient, qui militaient? C'était le droit de vote et l'élimination de tous ces signes extérieurs de la ségrégation qu'on voyait dans le Sud.
And they won victories on both fronts. They won in 64, 65, after all the demonstrations, they won the right to vote, and they ended legal segregation in the United States.
Et ils ont gagné sur les deux fronts, 64, 65. Ils ont réussi à avoir le droit de vote, et ils ont réussi à rendre illégale toute la ségrégation aux États-Unis.
But the movement had not prepared the way for the black community or the white community understanding that this would not be enough. A vote would not be enough. Desegregation would not be enough, because after black people got the vote in the South, and after the segregation signs were down, the fundamental problem for black people remained, and that was poverty.
Mais néanmoins, beaucoup de gens n'avaient pas vu à l'époque, n'avaient pas préparé la suite, à savoir que le droit de vote et la déségrégation, c'était pas suffisant, puisque le problème aussi, c'était de mettre fin à la pauvreté.
The civil rights movement was not prepared to go further and demand fundamental changes in the economic system. Martin Luther King, on the other hand, was one of the people in the movement who had some vision. He understood that there was a fundamental problem of the capitalist system.
Et Martin Luther King était un des rares dans le mouvement pour les droits civiques qui comprenait que derrière le problème pour les droits civiques, il y avait aussi le problème fondamental posé par le système économique et le capitalisme sur la justice sociale.
And that's why in the years before his death, he was planning a campaign on the question of economic justice, of poverty. That's why he created this, what was called a Poor People's Campaign, because he was assassinated before he could participate in it. And that's why he, well, on the eve of his assassination, he was in Memphis supporting the garbage workers who were on strike in Memphis. He knew that the next level of struggle had to be for economic justice, and it would have to be something more far-reaching than voting and segregation.
Et Martin Luther King avait très bien compris que la prochaine étape de ce combat, ça serait pour plus de justice économique, de justice sociale, et que ça serait uniquement par ce combat-là qu'on pourrait aller de l'avant. Et d'ailleurs, juste avant qu'il soit assassiné, ils étaient allés à Memphis pour soutenir un mouvement des boueurs, un mouvement qu'il était en train de constituer et qu'il n'a pas pu lui-même continuer à porter puisqu'il s'est fait abattre, pour la justice sociale et pour les...
Poor people's movement.
Voilà, le mouvement des gens pauvres.
Ça veut dire que pour le système, la lutte des races, ça pouvait à la limite se régler ou être accepté, mais la lutte des classes, non.
That's right. Just like they could accept ending the Vietnam War, but not accepting the end of war, or the end of a militarized America, or the end of American military intervention abroad. There's another example of solving an immediate problem but not being able to go beyond that to something more fundamental.
Oui, c'est vrai. Un autre exemple, c'est la guerre du Vietnam. Les Américains étaient prêts à mettre fin à la guerre du Vietnam, mais pas mettre fin à l'interventionnisme militaire américain. Voilà un autre exemple, résoudre le problème, mais sans aller un pas au-delà.
Ouais.
Serpentine, Annie DeFranco. Here on Democracy Now. But I must admit, today, my inner pessimist seems to have got the best of me. We start out sugared up on Kool-Aid and manifest destiny. And then we memorize all the president's names like little trained monkeys. And we're spitting the world so many spinny-eyed TV junkies. Incapable of unraveling the military-industrial mystery. Preemptively pacified with history book history. And I've been around the world now, and I can see this about America. The mind control is steep here. The myopia is deep here. And behold those that try to expose the reality. Who really try to realize democracy. Are shot with rubber bullets and gassed off the streets. While the global power brokers are kept clean and discreet. Behind a wall, behind a moat. And that is all, that's all, that's all, that's all she wrote. Big government should not stand between a man and his money. I mean, what's good for business is good for the country. Our children still take that lie like communion. The same old line the Confederacy used on the Union. Conjugate liberty into libertarian and medicated, associated with deregulation, privatization. We won't even know we're slaves on a corporate plantation. Somebody say hallelujah. Somebody say damnation. Because the profit system follows the path of least resistance. And the path of least resistance is what makes a river crooked, makes it serpentine. Capitalism is the devil's wet dream. So just give me my Judy Garland drugs and let me get back to work. A de facto choice of macro or microcosmic melancholy. But baby, any way you slice it, I'm thinking I could just as soon use the time alone.
Nous sommes tous américains, comme ces américains-là aujourd'hui, dans la basse, j'y suis, Annie DiFranco, au micro de Amy Goodman de la chaîne de radio et de télé qui s'appelle Democracy Now, en direct, là, ça a été un enregistrement comme ça. On continue avec Howard Dean, comme disait cette auditrice tout à l'heure, on l'écouterait pendant des heures.
J'ai oublié tout à l'heure dans les expressions qui reviennent à la mode, dans les expressions qui reviennent, il y a lutte des classes. Aujourd'hui, on peut lire ça. Il y a très peu de temps. Quel sens vous donnez à ce mot-là, lutte des classes?
Well, you probably know that in the United States, there's never been a recognition of class conflict, class struggle.
L'idée de lutte des classes, de conscience de classe, n'a jamais pris racine aux États-Unis.
The culture and the dominant elites in the United States and the media, they've always succeeded in creating a kind of ideology of we are one happy family. We are, you know, the U.S. Constitution starts off, we the people of, you know, of course it wasn't we the people who established the Constitution. It was 55 rich white men who established the Constitution.
Parce que les classes dominantes, justement les médias, les politiques, ont toujours fait en sorte d'entretenir l'idée de nous, le peuple américain, comme si on était tous une grande et belle famille, comme si on était tous ceux qui ont écrit le préambule de la Constitution, nous, le peuple d'Amérique, sans admettre et sans reconnaître que ce « nous » qu'ils disaient créer la Constitution américaine, ben, en fait, c'était 54 blancs riches.
Despite this ideology of « we are all one », we are a classless society. You know, the word class just, you know, not part of the American vocabulary.
C'est vraiment le terme de classe, you know, ne fait pas partie du vocabulaire américain. On se voit comme une société sans classe.
But despite all of this, there have been class struggles all through American history. From the very beginning, I mean, before the Revolutionary War, there were riots, food riots here in Boston, rebellions of servants against masters. There was class struggle and conflict, tenants against landlords, farmers going into jailhouses to rescue people who had been put there because they couldn't pay their debts. So, you know, that's part of American history which is not taught about in American schools.
Et c'est vraiment toute une partie de l'histoire américaine qui n'est pas du tout enseignée dans les écoles américaines, alors que l'histoire américaine, précisément, si elle se voit comme une société sans classe, n'est parcourue de fond en comble depuis de ses origines, de lutte de classe, de locataires contre les propriétaires, de lutte de ceux qui n'ont pas assez à manger, de lutte, par exemple, de paysans qui vont attaquer des prisons pour libérer ceux qui ont été enfermés parce qu'ils n'avaient plus de quoi payer.
Les esclaves contre les maîtres, etc.
All Americans learn. See, during the American Revolution, we were in a war against England for independence. That was the Revolutionary War. Everybody was united.
Et par exemple, pour ce qui est de l'histoire de la Révolution américaine, tout le monde le conçoit comme l'histoire des citoyens américains qui se rebellent contre le colon anglais.
It was untrue. You know, maybe one third of the colonists were supporting the revolution. You know, they had to draft people to go into Washington's army.
Sans même voir que c'était simplement un tiers de ceux qui étaient sur cette terre qui étaient dans ce mouvement et qu'ils ont dû mobiliser des paysans pour venir dans l'armée de libération.
And once they were in the army, the small farmers, the poor people who were in the army, when they saw what their conditions were, they rebelled. There were mutinies in the army of thousands of soldiers. That is never taught in American schools.
Il y a eu des mutineries justement de ces pauvres paysans mobilisés dans l'armée contre ce qu'ils étaient en train de faire. Il y avait vraiment des mutineries au début de la guerre d'indépendance.
George Washington ordered the execution of some of these mutineers, some of these rebels, and we don't learn about that in the schools.
Par exemple, on n'apprend pas à l'école que George Washington avait ordonné l'exécution de ces mutins.
And after the war, this class conflict continued because the veterans of the Revolutionary War who had been promised land for joining the army. They had little pieces of land, they were farmers, and then they found that the taxes being levied on them by the rich who controlled the state legislatures, they could not pay these taxes. So they were being evicted, their land and their farms being taken away from them, and so they rebelled. And there were rebellions in a number of states, in Massachusetts, in South Carolina, rebellions, class conflict.
Et il y a eu de telles rébellions et de conflits de classe après la guerre d'indépendance aussi, quand les anciens combattants qui s'étaient vus promettre des terres pour s'engager, une fois qu'on leur a donné les terres après l'indépendance américaine, eh bien les taxes qui étaient perçues par le pouvoir économique qui était présent au niveau du législatif, les taxes étaient tellement importantes que beaucoup de ces anciens combattants sont fait chasser de leurs terres parce qu'ils ne pouvaient pas payer des taxes. Et il y a eu donc, là aussi, des contestations et là aussi des explosions de violence qui correspondaient à des conflits de classe.
There's a long history of class conflict all through American history. The Civil War, right? The Civil War presented war against slavery, North versus South. They don't teach about the class conflict inside the North and the class conflict inside the South.
Et c'est pareil avec la guerre civile américaine qui est présentée contre le Nord abolitionniste, contre le Sud esclavagiste, sans voir là aussi les failles qu'il y avait ce conflit de classe au Nord, mais aussi au sein du Sud.
In the North, poor people rioted against the draft.
Au Nord, il y avait des pauvres qui faisaient des émeutes contre la mobilisation.
And in the South, women rioted because their husbands and sons were fighting in the war and they had no food and the plantation owners were growing cotton instead of food and so they were starving. So there were rebellions of women in various cities in the South. So this fact of class conflict within the South, within the North, that is not part of American education.
Et pareil, dans le Sud, il y a eu des émeutes, il y a eu des grands mouvements de femmes, principalement femmes de soldats ou mères de soldats, qui protestaient contre la mobilisation de leurs soldats pour aller se battre, alors que les grands propriétaires terriens, eux, faisaient pousser du coton dans les champs. Et donc, il y avait des problèmes d'accès à la nourriture, de malnutrition, qui ont provoqué des émeutes, là aussi, dans le Sud. Et donc, dans l'histoire américaine, les conflits de classe, au Nord comme au Sud, sont complètement occultés.
Votre livre, l'histoire populaire des États-Unis, commence avec Colomb, avec Christophe Colomb, dont vous donnez une image qui n'est pas aussi flatteuse que celle qu'on a généralement. Et quand est-ce que vous faites commencer le capitalisme ?
Well, you might say Columbus was the beginning in a sense that Columbus was the first European imperialist.
On peut dire que Christophe Colomb était le premier exemple ici sur cette terre de l'impérialisme européen.
And that Columbus's aim was, you might say, a capitalist aim. Columbus's intention when he came here was not to make some scientific discovery or to convert Indians to Christianity. His aim was to accumulate gold and bring it back to Europe.
C'est-à-dire qu'il ne venait pas pour faire des grandes découvertes scientifiques, il ne venait pas pour convertir des populations, il venait ici pour trouver et accumuler de l'or. Et en quoi il était un des premiers capitalistes.
So in that sense, the profit motive is there right from the beginning. Yeah.
C'est pour ça que vraiment le profit est le moteur qui est là depuis le début, cette histoire.
So you want to continue tomorrow?
Yes.
Very well. Demain, c'est la leçon, c'est le capitalisme. Vous révisez ce soir, dès ce soir, hein?
L'oral continue.
Well, today we live under capitalism. Who knows, by tomorrow?
Aujourd'hui, c'est le capitalisme, mais peut-être que demain, ça sera fini.
Oui, il faut qu'on se dépêche.
Thank you very much. À demain.
À demain.
See you later.
Le capitalisme, demain.
Merci à Wardine, merci à tous. Vous avez reconnu les traductions de Guy Vanctil, montage Catherine Pento. Merci à Ambre Ivol. La liste des ouvrages de Wardine est sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez réécouter cette série également sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique, Benjamin Dagatinet, Mathias Alléon, Koyen Guyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. Assisté d'Agnès Lebot et Catherine, attend vos messages aux répondeurs de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Demain, on continue avec Howard Zinn et on ira dans un endroit près de Boston qui s'appelle Lawrence, où fut créé le chant Bread and Roses. À demain, 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut!
Le casse-tête des papiers d'identité devrait cesser pour tous ceux dont les parents sont étrangers ou qui ne sont pas nés en France. Interpellé sur le sujet à l'Assemblée nationale, Brice Hortefeux dit avoir envoyé de nouvelles instructions par écrit au préfet. Désormais, la présentation d'une carte nationale d'identité plastifiée ou d'un passeport électronique suffiront, dit-il, pour prouver sa nationalité française et renouveler ses papiers. Le ministre de l'Intérieur annonce par ailleurs qu'il va saisir le Conseil d'État pour qu'un décret clarifie les choses. La socialiste Hélène Mandroux ne conduira donc pas de liste commune avec Europe Écologie dans le Languedoc-Roussillon pour les prochaines élections régionales. Dans un communiqué, son équipe de campagne le regrette et affirme que cette candidature reste la meilleure pour rassembler la gauche, comme en attestent les premières indications des sondages. La Grèce tente de rassurer ses partenaires de la zone euro. Mon pays est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour assainir sa situation budgétaire, a déclaré Georges Papandréou, le Premier ministre grec. Il s'exprimait à l'issue d'un déjeuner avec le président Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Sa ministre de l'économie, Luca Cazzelli, affirme de son côté que son pays ne compte pas sur les fonds d'urgence de l'Union européenne. Interrogée sur Reuters Télévision, elle a souligné qu'Athènes se financerait sur les marchés de capitaux internationaux, comme d'habitude. Les ministres de la zone euro doivent se concerter aujourd'hui sur le sujet par vidéoconférence. Pendant ce temps-là, dans le pays, des milliers de fonctionnaires ont défilé aujourd'hui à Athènes, notamment pour protester contre le plan d'austérité mis en place par les autorités, gel des salaires et des embauches dans la fonction publique. Le principal syndicat appelait à la grève ses 500 000 adhérents. La grippe A est passée par là. Sanofi Aventis peut se frotter les mains. Le groupe pharmaceutique français annonce en effet des ventes de vaccins records en 2009, en hausse de 46% par rapport à 2008. La mobilisation prend de l'ampleur selon les syndicats dans les magasins IKEA. Ils réclament toujours des hausses de salaire pour les quelques 9000 employés du groupe dans 26 magasins. Selon la direction, seul le magasin de plaisir dans les Yvelines est resté fermé aujourd'hui, mais il y a des perturbations dans les autres en Île-de-France. Une réunion de négociation avec la direction devait avoir lieu, mais elle a été annulée par la direction. Nouvelle déconvenue pour la 33e Coupe de l'América, c'est de la voile. La première régate de la course est une nouvelle fois reportée. Il y aurait de trop grosses vagues sur le parcours. Elle devait partir lundi dernier. Les averses de neige qui touchent le nord-ouest de la France vont s'intensifier dans la soirée et la nuit prochaine. Météo France a placé en vigilance orange jusqu'à demain midi plusieurs départements en Île-de-France, la Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime, également le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Les transports aériens sont perturbés, notamment à Roissy. Difficultés également sur les routes. Soyez prudents.
Le fou du roi. Stéphane Bern.
Demain, jeudi à 11h, Stéphane Bern recevra Alain Chamfort et Pierre-François Martin Laval. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h03, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Alors voilà, pour en finir avec les victoires de la musique, pour cette année seulement bien sûr, parce que elles vont continuer vu le très beau résultat, et on a les chiffres précis maintenant de ces victoires de la musique classique avant-hier à Montpellier, 1 840 000 téléspectateurs, donc ce n'est pas la même chose. Il y a un journal très sympa et populaire répandu à Paris et ailleurs qui dit que c'est toujours le score habituel. Non, non, ça fait 740 000 de plus que l'année dernière, ça n'est pas négligeable, c'est une bagarre. Évidemment, à chaque fois, c'est très compliqué. Il faut que les artistes soient libres, qu'ils puissent venir, qu'il y ait un orchestre disponible, une salle, la télévision, c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais là, ça a marché, on est très 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 heureux, et nous avons eu beaucoup de courriers, j'ai déjà dit, depuis hier, de satisfaction, un ou deux grincements, bien sûr, dont une lettre tellement exagérée qu'elle en devient insignifiante. Bon, ça peut arriver qu'on trouve tout mauvais, y compris les caméramans. Bon. Et puis, voilà, un peu... En général, c'est une petite tendance de vouloir garder la musique pour soi. Il y en a qui deviennent fous quand on donne la musique à tout le monde, mais nous, on continue comme ça, c'est ça le service public, le vrai. Et puis, quoi dire d'autre ? Oui, je remercie Cécile Bonnet-Desclostres qui m'a aidé avant l'émission et au moment de l'émission, parce que vous savez, quand vous êtes là-bas dans une ville qui n'est pas la vôtre, qu'il faut aller chercher quelque chose, un sandwich à tel endroit, voir pour le maquillage, prendre un objet qu'on a oublié, marcher sous la pluie, c'est un travail avant et pendant. Donc merci Cécile, et puis merci à tous les artistes, à l'orchestre de Montpellier, Languedoc-Roussillon, c'est vraiment une très très belle réussite pour la musique. Et néanmoins, dans cette réussite, il y a des choses qu'on peut regretter, c'est-à-dire que bravo à ceux qui ont eu les victoires, et puis il y en a d'autres, on est un peu triste qu'il n'y ait rien eu, mais évidemment ils continueront leur carrière, la carrière continue sans distinction, et même certains ont déjà une tellement grande qu'on se demande ce qu'ils viennent faire là. Mais enfin bon, c'est un spectacle, et la remise des victoires pimente ce moment musical. Ça donne un peu de suspense, de tension, c'est la loi du genre. Il y a Bertrand Chamaillou, c'est dommage qu'il n'ait rien eu, mais de toute façon, on va l'entendre prochainement ici même, et son disque qui va sortir au mois de mars, c'est déjà superbe, c'est César Franck, en avant-première pour vous, auditeurs de France Inter, un extrait du prélude choral et fugue, un passage très lyrique du choral. Élévation sublime, on peut dire, même le choral du prélude, choral et fugue de César Franck par Bertrand Chamaillou, disque à paraître, je l'ai dit, prochainement, le mois prochain. Il viendra, ce magnifique artiste et ce jeune homme absolument adorable. Et il y a eu aussi, alors on regrette que Cecilia Bartoli, qui a publié un disque absolument fameux, comme toujours, c'est-à-dire que le contenu artistique est très intéressant. Il y a l'histoire qui est contée, ça c'est l'histoire des castrats, Sacrificium, comme elle a dit elle-même, parce que la prononciation du latin, je sais que ça peut varier, mais enfin bon, je me fais confiance, elle est italienne. Et Cecilia, là, nous montre tout un drame, puisqu'on a castré quelquefois jusqu'à 3000 enfants à Naples, en espérant qu'ils feraient carrière avec une voix aiguë, qu'ils garderaient toute leur vie. Donc c'est un très très bel objet, et si l'autre victoire a été amplement méritée, Philippe Jaroussky, mais on avait déjà eu 3,5, parce qu'il a eu aussi une victoire pour un disque dans lequel il participait pour une part, et bah voilà, très bien, mais cet objet-là, on ne peut pas le rater, donc le sacrifice, Cecilia Bartoli chez Decca. Et voici une superbe mélodie tirée de Circé de Georg Friedrich Händel, Ombre mai fu, c'est-à-dire jamais l'ombre d'aucun arbre ne fut plus douce, plus précieuse et plus agréable. Ça a été écrit pour Carestini, fameux castrat, et heureusement, ça n'existe plus, le castrat, mais les voix subsistent, évidemment, les contre-ténors ou autres contre, mais ça c'est par la technique vocale qu'on y arrive, et là, c'est une femme, c'est Cecilia Bartoli.